Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug Nowtech 213. Nous sommes le 6 octobre 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, que vous avez un grand mug comme moi rempli de bonnes choses. Ouais. Oui. Et je vous propose qu'on regarde un petit peu de quoi on va parler ce matin. Et merde, est-ce que j'ai branché mon iPad? Oui, c'est bon. Ce matin, on va parler d'Apple qui, très discrètement, très silencieusement même, s'est débarrassé de Bose, de Sonos et de quelques casques et écouteurs Logitech. Pourquoi donc? On se posera la question. On parlera de la Nintendo Switch avec trois hackers de la team exécuteurs qui ont été arrêtés par le FBI. On parlera aussi de la nouvelle Apple TV que Apple serait en train de concocter avec des jeux vidéo. On parlera également de milliers de cas de Covid-19 qui ont été non signalés en Angleterre, au Royaume-Uni, car un fichier Excel aurait atteint sa limite de données. Trahi par Excel, ça craint. On parlera également de Facebook qui prépare sa défense pour éviter son démantèlement. Et on aura une tartine, on rediscutera du documentaire de Social Dilemma, en français Derrière nos écrans de fumée, et justement de la réponse de Facebook par rapport à ce documentaire. Programme assez léger, ça va nous laisser du temps pour partir dans les graviers comme on l'aime. Donc moi je vous propose qu'on passe tout de suite au Kawa. Salut Yanis, je t'avais pas vu dans la chatroom. J'espère que tu vas bien. On va commencer effectivement très discrètement. Apple aurait retiré un certain nombre de produits de sa boutique. Vous le savez, hein, Apple vend des produits. Alors, je vais pas pouvoir vous les montrer aussi facilement. Ah mince, pourquoi? Attendez une seconde, j'essaie de l'ouvrir ailleurs. Si j'arrive à l'ouvrir dans Chrome, je vais pouvoir vous montrer les visuels d'un certain nombre de produits. Eh ben non, je vais pas y arriver, ça ne marche pas. Bon, je vais vous expliquer mon problème. C'est que avec mon logiciel de surlignage, je ne peux pas valider le truc de RGPD, le bandeau noir. Mais bon, vous voyez, par exemple, le casque Bose Noise, le casque Bose 700, ou alors les Ultimate Ear Mega Boom, ont été retirés. Donc, un certain nombre de produits comme ça, de marques Bose, Sonos, et des écouteurs et des enceintes de chez Logitech, ont été retirés très discrètement du store. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Apple, c'est sa boutique, hein. Ils y mettent qui ils veulent. Apple vend avec plaisir des produits qu'il n'a pas envie de produire lui-même. On sait d'ailleurs, pour revenir sur le cas de Logitech, que par exemple tout ce qui est souris et clavier Logitech ne sont pas du tout retirés du store. Là, c'est vraiment un focus de la part d'Apple de retirer des produits dans sa partie audio. Mais pourquoi donc ils font ça? Aurait-il pas un petit casque audio à annoncer bientôt, Apple? En tout cas, les rumeurs le disent. Et c'est vrai que peut-être qu'ils auraient aussi une nouvelle enceinte Apple. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut trouver plus que des produits Apple en termes d'audio. Voilà, je crois que c'est pas la peine de trop réfléchir. Ça paraît un peu une évidence que Apple va arriver avec un casque audio, va arriver à mon avis aussi avec des nouveaux ou un nouveau HomePod, on espère beaucoup moins cher que le premier, puisqu'ils sont quand même un peu plantés, hein, sur les ventes du HomePod, qui à mon avis étaient beaucoup trop chères par rapport à la concurrence. Les prix Apple, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Comme quoi, les pigeons savent compter quand même. Ça sera, tiens, j'aimerais en faire un t-shirt, ça. Les pigeons savent compter. Voilà, c'était la petite supputation du jour sur Apple Audio qui va se renforcer. Non, c'est pas aujourd'hui. Hein. A priori, les annonces sont le 13 et comme je vous le disais la semaine dernière, les produits, en tout cas l'iPhone, serait probablement disponible vers le 23. Donc préparez vos portefeuilles. Vous avez encore à peu près une semaine pour avertir votre banquier qu'il va y avoir un gros trou d'air dans le compte. Apple enceinte de leur propre... Oula, 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 le tutoriel, non. Tu démarres beaucoup trop fort, beaucoup trop vite là. Faut y aller doucement sur les jeux de mots au début. Hein. Les Apple Glass, non, je pense pas que ça sera cette année. On peut être surpris. Peut-être qu'ils annonceront quelque chose qu'ils sont en train de bosser dessus. Peut-être qu'ils marqueront le coup en montrant peut-être des prototypes. Mais c'est pas dans les habitudes d'Apple. Sortir les Apple Glass cette année, pour moi, ils sont pas du tout prêts. Après, je peux me tromper. Hein. Je suis pas... Hein, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Rarement, d'accord, mais ça m'est déjà arrivé. On continue à parler de la Nintendo Switch. Et effectivement, il y a des hacks sur la Switch, et notamment une team de hackers assez connue qui s'appelle Exécuteur. Ils viennent d'être arrêtés par le FBI, dont un Français de 48 ans. Ils sont soupçonnés d'être les leaders de la team Exécuteur, laquelle développe et commercialise des kits pour contourner les protections de la console Nintendo. Ils encourent chacun 20 ans de prison... pour chacun des 11 délits dont ils sont accusés. Effectivement, Nintendo a déclaré la guerre aux pirates qui contournent les protections intégrées à ses consoles. Le but de ces hacks n'est pas simplement d'élargir le potentiel de la Switch, mais c'est également faire tourner des copies de jeux commerciaux, ce qui représente bien évidemment un énorme manque à gagner pour Nintendo. La team Exécuteur a développé SXOS, SX Core, SX Pro, SX Lite, des kits pour débloquer tous les modèles de la Switch, même les derniers. Nintendo a porté plainte. L'enquête menée par le FBI a porté ses fruits. 3 personnes ont été arrêtées dans 3 pays différents. L'un d'eux est français, Max Louarne, âgé de 48 ans, il habite à Avignon. Les 2 autres membres sont chinois et canadiens. Ils habitent respectivement à Shenzhen et en République dominicaine. 11 chefs d'accusation sont retenus contre eux, dont fraude électronique, association de malfaiteurs, trafic d'appareils de contournement, association de malfaiteurs en vue de contourner des mesures technologiques ou encore association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent. Donc c'est pas des petites accusations. Encore une fois, on en arrive au fond du problème. Le piratage en soi, bon, on peut être condamné pour piratage, surtout si on va dans des trucs de sécurité, mais là où ils sont accusés, là où ils risquent 20 ans, c'est qu'ils ont fait de l'argent avec leur piratage. C'est devenu un business parallèle à celui de Nintendo. Donc Nintendo, quelque part, est obligé, bien évidemment, de réagir. Les États-Unis, d'ailleurs, vont demander l'extradition de Max Louarne afin que le procès se déroule outre-Atlantique, où la plainte a été déposée. On ne déconne pas avec les sous des grandes multinationales. Le hacking, ça peut être œuvre utile pour montrer les fragilités d'un système. Hacker et faire de l'argent avec son hack, c'est complètement un autre problème. Faut pas toucher au sous-sous, c'est clair. C'est clair. Nintendo devrait les embaucher. C'est arrivé très souvent, effectivement, que des marques embauchent des hackers qui avaient contourné leur système pour exploiter leur talent. Mais à partir du moment où tu construis un business, et manifestement un business très lucratif, avec ton hack, non, tu passes dans des trucs, ça devient ça devient grave. En gros, c'est du vol. C'est pas... En fait, il y a un peu cette illusion, et je pense que ça a été peut-être créé par une imagerie hollywoodienne du hacker un peu sombre, mais quand même un peu gentil, avec un grand cœur, avec son côté Robin des Bois, qui est assez inoffensif, puisqu'il a un côté un peu geek, et il est juste là avec son clavier à 3h du matin à taper des lignes de code dont on comprend rien et qui dégouline sur fond noir. Non, il y a la mafia dans le hack, il y a du gros business, il y a du blanchiment d'argent. Voilà, c'est pas des enfants de cœur, quoi, les mecs. Et effectivement, voilà, c'est aussi répréhensible qu'un mec qui détourne des camions sur une autoroute pour voler la marchandise. C'est pareil. C'est pas parce que ça se passe derrière des écrans bien au chaud en sirotant une tasse de thé que c'en est pas aussi grave qu'un mec qui va braquer des fourgons, quoi. C'est la même chose, quelque part. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une imagerie un petit peu poétique du hacker dégagée par Hollywood. Ça a commencé avec Wargame, ça continue avec des séries maintenant, qui dédramatisent un peu les faits, quoi. Oui, après, il y a le hacking d'État. Hein. C'est un mythe, d'abord, c'est très rare, et ça arrivait à personne de démontrer une vulnérabilité sans faire de mal, au contraire, du bien à l'entreprise. Tout à fait. Après... De toute façon, aujourd'hui, il y a des architectures, entre guillemets, de hacking bénéfiques. Les bug bounty sont des choses, et on en sait quelque chose, puisque l'ami Corben, avec, j'allais dire la nuit du hack, mais... c'est quoi leur société ? Bon, ça me reviendra, mais qui font du bug bounty. Là, effectivement, c'est travailler sur les vulnérabilités des entreprises, mais dans un cadre légal et pour aider les entreprises, effectivement, à réparer leurs vulnérabilités. Yes, oui, hack. Merci beaucoup. Il va m'en vouloir, Corben. J'avais oublié le nom. Yes, oui, hack. Si les pirates mettaient autant d'énergie pour concevoir des trucs, on aurait des machines top. Ouais, le tutoriel, après, voilà, je vais pas vous ressortir mes analogies préhistoriques. Enfin, à partir du moment où il y a un mec qui a taillé un silex qui était un peu plus coupant qu'un silex naturel, il y avait un mec derrière lui pour lui piquer. Je pense que le vol est né la seconde même où on a inventé la valeur. Donc, voilà, on se refait pas, hein. Les moyens ont changé, mais voilà. Ça mérite un film hollywoodien. Tu penses quoi de Snowden ? Oula, c'est un vaste sujet. Il y a nous, on en parlera peut-être dans une tartine si un jour il y a une actualité Snowden qui revient. Effectivement, on en reparlera, mais là, c'est un peu à côté, quoi. Faut pas autant de talent pour casser les choses que pour les construire. Je suis partiellement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que parfois les voleurs, c'est comme quand vous trichiez à l'école. Enfin, quand moi je trichais à l'école, parce que j'ai pas à vous impliquer, et que je passais tellement d'énergie à écrire tout petit sur des pompes que je planquais dans le stylo. Eh oui, chers parents, sachez-le, je trichais à l'école. Et que je dépensais tellement plus d'énergie que d'apprendre mes leçons, que parfois le vol, on se dit quand même, le mec il s'est fait chier, peut-être qu'il aurait pu créer de la valeur avec toute cette énergie. Ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bouh ! C'est une honte. Mais j'ai honte, hein, d'ailleurs. Puis je me suis fait choper. Hein. J'étais pas particulièrement doué. Hein. Donc mes parents sont au courant, hein, rassurez-vous. Hein. Des conseils de discipline, j'en ai fait. Je suis déçu, je perds mes illusions. Attention de ne pas utiliser des caps, effectivement, dans vos messages, le chat. Vous risquez d'avoir votre message supprimé. On continue et on va parler de Apple. Apple qui serait en train de travailler sur une nouvelle Apple TV. Alors, c'est l'informateur Chocobit, actif sur Twitter, qui nous dit que la firme californienne sera en train de travailler sur des nouveaux boîtiers Apple TV et également sur des jeux AAA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu AAA ? C'est schématiquement des gros jeux comme Assassin's Creed, GTA, Watch Dogs, FIFA, etc., en opposition à, on va dire, des petits jeux, des jeux mobiles. Moi, je trouve que cette distinction, elle est poreuse aujourd'hui. Il y a des jeux mobiles qui sont... pour moi, la distinction, elle est plus sur le temps qu'on passe sur les jeux. Pour moi, un triple A, c'est un jeu où je vais vraiment y consacrer du temps, y jouer plusieurs soirs de suite pendant des mois. Pour moi, ça, c'est un triple A. Bien évidemment, la classification de l'industrie, c'est les moyens développés pour ces jeux-là. Moi, je vois ça dans une perspective de gamer. Bien évidemment, je n'aime pas la distinction casual et hardcore gaming parce que je trouve que elle fait un peu vieillotte, cette distinction. Moi, il y a des jeux, sur mon iPad, j'ai passé plus de temps que des jeux sur mon PC. Mais globalement, voilà, les triple A, il y a généralement aussi toute une machinerie marketing derrière. C'est on va dire des gros jeux. Et Apple serait effectivement en train de travailler sur des jeux triple A. Est-ce qu'ils sont, on le sait, ils ont racheté en douce quelques studios. Moi, je pense que Apple, il faudrait qu'ils signent quelques grands titres, quelques exclus, s'ils veulent vraiment rentrer dans le jeu. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau hardware, ils seraient en train d'équiper une nouvelle Apple TV du processeur A14. Et le A14, c'est une petite bombe. On le sait, ça va équiper les futurs iPhone 12. On le sait, hein, ça fait 3 ans que Apple est plutôt bon en processeur et développe des processeurs qui ont quand même pas mal de patates. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de balancer quand même des jeux avec des graphismes. Alors, c'est peut-être pas des graphismes de la dernière Nvidia, mais on le sait avec Nintendo, le graphisme ne fait pas tout dans un jeu, loin de là. Donc, à voir effectivement. Ce que dit la rumeur aussi, c'est que Apple serait en train de travailler sur un contrôleur. À mon avis, à mi-chemin entre une télécommande et une manette. Pour effectivement renforcer son offre Apple Arcade. On le sait aussi qu'Apple arrive avec Apple One, l'abonnement qui les regroupe tous. J'ai l'impression qu'Apple se met sérieusement aux jeux vidéo, ce qui va être intéressant. Le triple A n'a rien à voir avec le mobile. Oui, c'est plus une question de budget, je suis d'accord. Dans la nomenclature, Ouais, c'est plutôt comparé aux jeux indépendants. D'accord, effectivement. Ok. Triple A, c'est par rapport aux jeux indépendants. C'est plus une question de moyens. Ok, j'ai fait une mauvaise comparaison. Et généralement, les jeux triple A sont vendus à un certain prix hein, aussi. J'hésite à acheter une Apple TV. Bah, hésite encore un peu, parce qu'il n'est pas impossible qu'ils annoncent quelque chose. Peut-être pas la prochaine keynote Apple. Peut-être que l'Apple TV, ça sera quelque chose pour la prochaine WWDC ou à voir. Peut-être qu'ils ont quelque chose à annoncer. Le fait qu'ils aient annoncé les Apple Watch et les iPad en avance, c'est pour dégager le terrain. Donc, il n'est pas impossible que Apple ait pas mal d'autres choses à annoncer en plus des iPhone 12. À la prochaine keynote. Mes Mac ARM. Et alors? Il suffit de développer pour. Puis c'est plutôt un choix d'avenir. Hein. Ah, tu veux dire les Mac ARM, bah ça, ils les ont déjà un peu annoncés. Maintenant, il faut juste qu'ils arrivent. On commence même à avoir des éditeurs qui voudraient parler de quadruple A. On va tomber dans l'andouillette si on continue. Pour moi, moins cher, tu as plus de possibilités, autant de services. Oh, nouvelles lunettes. Oui, je les ai annoncées hier, mes nouvelles lunettes. Nous avons unboxé les lunettes hier. Sur la PS5, les jeux seront dans les 80-90 euros. Ouais, c'est cher. C'est cher pour un mauvais jeu. Après, un bon jeu sur lequel je passe beaucoup de temps, j'ai absolument pas de remords si j'ai dépensé 80 euros, quoi. Ouais, les Mac ARM, je sais pas s'ils vont vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Ils en ont quand même beaucoup parlé à la WWDC, on verra. Peut-être qu'ils vont annoncer effectivement le premier modèle. Je ne sais pas s'ils passeront tant de temps que ça dessus. On verra. On verra, on verra. Allez, on continue dans les news. Donc, Apple TV, à voir s'ils en font une console. C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé au Royaume-Uni. Des milliers de cas non signalés de Covid ont été non signalés à cause d'un fichier Excel qui aura atteint sa limite de données. Les autorités sanitaires britanniques ont annoncé près de 16 000 cas de coronavirus en Angleterre qui n'ont pas été signalés en l'espace d'une semaine en raison d'une erreur informatique, ce qui signifie que des milliers d'autres personnes n'ont pas été invitées à s'isoler après être rentrées en contact avec des personnes infectées. 16 000 personnes, quand on sait que potentiellement ils peuvent en infecter pas mal d'autres, c'est quand même une erreur informatique, on va dire grave, voire gravissime. Le PHE, le Public Health England, qui comptabilise quotidiennement les nouvelles infections du Covid-19, a manqué 15 841 nouveaux cas entre le 25 septembre et le 2 octobre. L'erreur aurait été causée par la feuille de calcul Excel utilisée pour compiler les données. Elle aurait atteint la limite de données maximum et du coup n'a pas inscrit les nouvelles données. Ce qui signifie d'ailleurs pour l'Angleterre que la propagation du virus est nettement plus élevée que ce qui avait été signalé la semaine dernière. Donc c'est quand même un problème. D'ailleurs, John Ashworth, secrétaire d'État fantôme, il faut savoir qu'en Angleterre, il y a un gouvernement fantôme qui est prêt à prendre le relais s'il y a un problème avec le gouvernement actuel. Ça n'a rien à voir avec les fantômes écossais dans leur château. Hein. En fait, non, pour être exact, l'État fantôme, c'est dans l'opposition. Ah oui, dans l'opposition, donc le parti travailliste actuel, il y a un gouvernement qui est prêt à prendre les fonctions au cas où le Parti travailliste britannique gagne les élections. Voilà, on a fait un petit cours sur la politique anglaise. Bref, John Ashworth a évoqué le problème technique en disant « c'est une honte et les gens à travers le pays seront naturellement alarmés ». Donc, en France, pays francophone, checkez votre Excel si vous utilisez, hein, que vous n'avez pas dépassé la feuille. Voilà. Alors Excel c'est génial, mais l'utiliser pour ça c'est quand même pas hyper pro. Après j'y connais rien, mais effectivement le corona en Angleterre, un accident de bicyclette détecté 2 mois auparavant est comptabilisé comme mort au Covid. Les champions, ouais. Utiliser un tableur pour un élément aussi critique, c'est déjà le gros problème. J'utilisais Excel par faiblesse d'utiliser une vraie base de données. Alors, je suis pas versé dans... Déjà, moi, Excel, pour moi, c'est de la magie noire. je comprends pas comment ça marche. J'arrive quand même à faire des petits tableaux Excel. On m'arrête de te ridiculiser. Mais c'est quand même de la magie noire. Pour moi. Je me demande si LibreOffice aurait eu le même problème. Là, vous me posez des questions. Je n'ai pas de réponse. Bref. Effectivement, il faut pas déconner avec les chiffres du Covid en ce moment, ça peut créer. Là, effectivement, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même 15 000, plus de 15 000 personnes à comptabiliser d'un coup. Ça va changer leurs chiffres. Hein. En tout cas, ils se font tacler par le chat d'utiliser Excel. Hein. Là, il y a des gens furieux. On va parler un petit peu de Facebook. D'abord, on va parler du démantèlement de Facebook. Ça peut paraître un peu science-fictionnesque, mais c'est quand même vachement d'actualité. En ce moment, les commissions aux États-Unis antitrust sont en train d'étudier sérieusement. Et d'ailleurs, les républicains aux États-Unis ont dit que s'ils passaient... les démocrates, pardon. S'ils passaient, envisageaient... je confonds, là, dingue en ce moment. Ils envisageaient sérieusement ces histoires de démantèlement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de démantèlement? C'est de prendre les GAFA et de les couper en morceaux. Tchic, 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 tchic. De prendre, par exemple, Facebook, de couper Instagram, de couper WhatsApp... et en faire 3 sociétés à part, voire prendre la régie publicitaire de Facebook, la séparer d'une autre entité. Ça a déjà été fait aux États-Unis pour certaines grandes sociétés. genre Rockefeller, enfin des grosses sociétés pétrolières qui avaient un peu trop la main mise sur toute une échelle de marché, de la production jusqu'à la vente. Quand une entreprise se met à contrôler toute sa chaîne, elle bloque complètement la concurrence, elle devient un marché dans le marché. Et ça, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé, ça fait partie des paradoxes du libéralisme. Le libéralisme est rempli de paradoxes. Le premier est que le libéralisme te pousse à faire de plus en plus d'argent et à grossir de plus en plus, jusqu'au moment où tu es trop gros. Et là, on te dit, quick, je te coupe en morceaux. C'est effectivement un vrai paradoxe. Hein, alors, je suis pas assez bon en écho pour vous dire que c'est plutôt le libéralisme, le capitalisme ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'une entreprise est condamnée, entre guillemets, à faire de plus en plus de profits et à grossir. Une entreprise qui stagne, bon, ça s'appelle une association, c'est pas une entreprise. Une entreprise vit de croissance et doit croître, doit augmenter ses profits, doit augmenter sa masse et augmenter sa mainmise sur le marché, obtenir de plus en plus de parts de marché, jusqu'au moment où on lui dit « Hey, t'as bloqué le marché, là, t'es trop gros ». C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et aujourd'hui, on est en train sérieusement de se poser la question si c'est Google, Facebook, d'une certaine mesure Microsoft et autres ne sont pas devenus des géants beaucoup trop gros. Apple, à mon avis, y échappera. Mais parce que justement, Apple ne s'est pas mis à vendre de l'espace publicitaire. Apple y échappera peut-être pas sur son App Store, par contre. Peut-être que Apple va se faire snipper son App Store et qu'on l'obligera à faire une entreprise différente pour l'App Store. C'est pas impossible. Pas d'accord, il existe des entreprises comme Loom qui fonctionnent très bien en stagnant. Bah écoute, Val Dupin, on pourra avoir une grosse discussion sur l'économie, mais le problème, c'est que si tu stagnes comme une entreprise, tu ne peux pas investir. Faire plus de profit, c'est pour une entreprise vertueuse, j'entends, c'est aussi avoir plus d'argent pour investir, embaucher plus de monde et grossir. Et c'est le fonctionnement d'une entreprise. En tout cas, dans une démarche capitalistique. Après, si tu veux pas grossir et stagner, tu seras bien mieux dans un système associatif qui, en théorie, tout bénéfice doit être réinvesti obligatoirement et tu n'as pas, justement, à présenter à des actionnaires, etc., des bénéfices. Voilà. Google et Facebook, c'est que du service. C'est plus compliqué que ça. Le problème, c'est que Google ou Facebook vendent... En fait, ce qu'ils vendent, on sait, c'est de l'espace publicitaire ciblé, mais ils s'occupent aussi de la plateforme. C'est un peu ce qui est arrivé dans la pub des années 80. Quand tu vends à la fois de l'espace publicitaire et de la création publicitaire, et c'est les fameuses lois Sapin aux États-Unis qui ont empêché les agences de pub de vendre à la fois l'espace. Je dis ça parce que je connais bien, je fais partie de la pub. Les lois Sapin ont empêché la vente par des boîtes de pub d'à la fois l'espace publicitaire et de la création publicitaire. Tu peux pas vendre les deux. Parce que sinon tu crées ton propre système. Oui, ça fonctionne uniquement sans actionnaire, effectivement. Oui. Mais justement, une entreprise sans actionnaire, même quand tu ouvres une SARL, t'as un actionnaire peut-être majoritaire, un seul, mais t'en as un. Bref, là on est en train de mélanger économie et le truc. Tout ça pour dire, Facebook, le problème, c'est que ils vendent pas des services, ils donnent des services pour créer un espace publicitaire. Donc, ils créent des services que nous on utilise. Et notre utilisation de leurs services leur permet de vendre des espaces publicitaires ciblés. Et ce qu'on leur reproche à Facebook, c'est pas ça. Bon, là, je prends justement spécifiquement Facebook. Facebook, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir racheté WhatsApp et Instagram et que le groupe Facebook détient trop de pouvoir. Il a trois grands acteurs de ce marché, WhatsApp, Instagram et Facebook, et du coup, on peut faire un peu la pluie et le beau temps. Parce que ce qu'ils ont perdu sur Facebook, ils l'ont récupéré avec Instagram. Ils peuvent faire du cross-platform. On le sait, en ce moment, ils sont en train, effectivement, de tester des fonctions de vente directes sur les Reels de Facebook. Donc, on va les voir dans les stories d'Instagram, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on leur reproche, effectivement, c'est d'être devenu trop gros et de contrôler des pans trop entiers de ce business-là. Au cours de la décennie écoulée, le réseau social a multiplié les acquisitions et s'est notamment renforcé en mettant la main sur deux applications concurrentes, WhatsApp avec 2 milliards d'utilisateurs et Instagram 1 milliard d'utilisateurs. Ces opérations qui ont fait de Facebook le leader incontesté qu'il est désormais qui contrôle finalement une partie énorme du marché. Schématiquement, c'est très schématique, mais en dehors de Google et de Facebook, enfin, ils contrôlent quasiment 100% du marché à eux deux, quoi. Du marché de la vente d'espaces publicitaires ciblés. Et du coup, ils font un peu la pluie et le beau temps, quoi. Et c'est ça qui peut être dangereux. Facebook est en train de préparer sa défense, justement, pour éviter son démantèlement. Et a priori, la stratégie de défense de Facebook reposerait sur plusieurs choses. Ils voudraient, eux, maintenir le statu quo. La première ligne de défense que Mark Zuckerberg, enfin son groupe, utiliserait, c'est de dire pourquoi vous ne nous avez pas empêché de racheter Instagram et WhatsApp. C'était gros comme un camion ce qui allait arriver. On ne les a pas rachetés pour devenir plus petits. On est une entreprise capitalistique, on allait grossir en achetant Instagram et WhatsApp. Donc, une des lignes de défense, c'est de dire on ne peut pas revenir comme ça sur quelque chose qui a été acté par l'autorité de la concurrence à l'époque. Et moi, je me souviens, quand il y a eu le rachat d'Instagram, il y a eu un débat au niveau de l'autorité de la concurrence aux États-Unis et finalement, ils ont donné leur accord. Et là, on peut, même si on n'aime pas Facebook, oublions Facebook, mais on peut se mettre à la place d'une entreprise. C'est bien gentil de vouloir démanteler une entreprise parce qu'elle a réussi, mais ce n'est pas du jeu. Pourquoi, si vous aviez peur qu'on devienne trop gros, vous nous avez permis d'acheter, et on en entend parler toutes les semaines, hein, que certains achats doivent être actés par des autorités de la concurrence. C'est à ça que servent les autorités de la concurrence, c'est des régulateurs qui doivent se dire, bon, bah, faisons une projection sur les 10 ans à venir, si telle société rachète telle société, est-ce que le risque... est-ce qu'il y a un risque de monopole? Est-ce qu'il y a un risque de devenir trop gros? Et en ça, moi, même si j'aime pas trop Facebook, je me mets à leur place. C'est vrai que c'est légitime comme défense. En fait, les autorités de la concurrence, ça devient n'importe quoi à partir du moment où ils attaquent les monopoles quand les monopoles sont devenus des monopoles. Quelque part, une bonne autorité de la concurrence doit anticiper l'émergence de monopoles et les empêcher. Donc, je trouve que la ligne de défense, elle n'est pas mauvaise dans ce sens-là. La deuxième, c'est aussi que Facebook parle du problème sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook a regroupé les identités des utilisateurs Facebook, Instagram, WhatsApp, hein, tout ça dans des gros bons fichiers, et que le démantèlement et l'écartèlement du groupe Facebook en trois entités poserait d'énormes problèmes de sécurité. Également, ils ont indiqué que le processus coûterait des milliards de dollars à l'entreprise. Alors, votre réaction, c'est de dire « Oh, mais des milliards de dollars, ils en ont !» Oui, mais ce que veut dire cette phrase, quand on s'oppose à des commissions d'État, quand Facebook dit « ça va coûter des milliards à l'entreprise », c'est « vous avez vraiment envie qu'on vire des gens ?» Et vous retrouvez avec des chômeurs. Et ça, c'est un bras de fer entre les entreprises et les États. Les entreprises, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont créatrices d'emplois ou destructrices d'emplois, selon comment on les laisse faire leur business. Et à trop leur mettre les bâtons dans les roues, Et c'est vrai que c'est une menace des entreprises, une menace réelle, c'est pas une menace en l'air, mais une entreprise ne peut pas maintenir un certain nombre d'emplois si ça commence à lui coûter trop cher. Alors je sais, vous êtes en train de penser à des scandales, et des scandales, il y en a, des entreprises qui font des bénéfices et qui virent des gens. C'est parfois pas aussi simple que ça. Mais toutes les entreprises ne font ça, et même Facebook, même s'ils ont des milliards de dollars, à partir du moment où les choses commencent à coûter beaucoup d'argent, et c'est le fonctionnement d'une entreprise, il faut diminuer la masse salariale pour pas devenir déficitaire. Là, on fait vraiment beaucoup d'économies ce matin, mais bref. Donc c'est une menace sourde, c'est du passif agressif de Facebook de dire « si vous nous démantelez, va y avoir des problèmes financiers. Et s'il y a des problèmes financiers, il risque d'y avoir des problèmes d'emploi. » Sans parler des problèmes qu'il y aura à la bourse de capitalisation. Donc, en gros, si vous nous démantelez, ça va vous coûter cher. Quelque part, on ne peut pas en vouloir à Facebook de vouloir se défendre. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas... Moi, je pense qu'il faut démanteler. Je pense qu'il faut démanteler certaines entreprises. Il faut... Je serais assez pour, par exemple, dans le cas d'Apple, que l'App Store, on les oblige à créer une société indépendante pour tout ce qui est gestion des apps et de l'App Store. Il y a un vrai problème de concurrence dans le cas d'Apple et aussi dans le cas de Google, hein, quelque part, avec ses stores, où, pour le coup, ils peuvent vraiment faire la pluie et le beau temps, sachant qu'eux-mêmes ont des apps à mettre en avant. Ça fait un peu du chantage à l'emploi. Oui, mais Vaea, le chantage, il est dans les deux sens. Hein. L'État aussi hein, fait du chantage sur les entreprises. Il ne faut jamais voir les choses que dans un sens. Les entreprises, quelque part, elles se battent, elles se défendent, les États, et c'est parfois, effectivement, assez conflictuel entre les États et les entreprises. On a vu aussi, je sais pas, je prends un exemple comme ça qui me vient en tête, mais ce qu'avait fait Montebourg avec Dailymotion, faut pas en reparler à Dailymotion. Clairement, l'État avait mis les bâtons dans les roues d'une entreprise, et même s'il y a d'autres problèmes chez Dailymotion, a créé des problèmes sérieux. En imposant un actionnaire qui voulait pas d'ailleurs devenir actionnaire de Dailymotion, voilà, les États sont pas des sont pètent parfois les couilles des entreprises. Hein. Le chantage mutuel, ça s'appelle une négociation. J'adore cette définition, Oleg. Une bonne négociation commerciale. C'est juste deux otages. Ben voilà, si Veolia rachète Suez, il serait en position de monopole et attaquable. Donc, moi, je suis 100% pour des autorités de la concurrence, mais il faut qu'elles fassent... C'est trop facile d'attaquer les entreprises quand elles sont trop grosses. Ça, c'est trop facile. Et là, c'est une perturbation des... Et j'estime qu'il y a certains bénéfices au libéralisme, il y a des excès aussi, mais il y a certains bénéfices au libéralisme. D'abord, la liberté d'entreprendre, qu'on oublie souvent, de vendre ce que je veux, au prix que je veux, à qui je veux, c'est une grande liberté. Et les gens qui fantasment sur les économies d'État et les économies planifiées, si vous avez tous envie d'acheter une Lada, ok, c'est votre problème. Mais bref, putain, qu'est-ce qu'on fait comme économie ce matin ? Tout ça pour dire, voilà, il est très important qu'il y ait effectivement un bon fonctionnement entre les États et les entreprises, pour pas qu'on se fasse déborder par des entreprises qui deviennent des monopoles, et ça c'est extrêmement dangereux pour le libéralisme, les monopoles. Par contre, effectivement, les États ne peuvent pas simplement être des siffler la fin de la récré quand l'entreprise est trop grosse. C'est trop facile aussi. Oui, économie de marché, pardon, j'ai mis libéralisme dedans, mais je suis pas très bon en éco. Hein, je confonds capitalisme, libéralisme, économie de marché, etc. Oui, mais bien évidemment, je vais dans les extrêmes. De toute façon, Mikano, on peut pas être... Bien évidemment, il y a des panels... toutes les nationalisations ne sont pas mauvaises. quand on voit justement en Angleterre où ils ont tout dénationalisé, va voir l'état du chemin de fer en Angleterre, par exemple. Donc, je suis pas contre les nationalisations hein, d'entreprises. Mais pour moi, la nationalisation d'entreprises, on n'est pas encore dans l'économie planifiée. Voilà. Pour avoir vu la Roumanie sous Ceausescu, l'économie planifiée, c'est pas très au point. Ouais. Imaginez, on serait tous obligés d'acheter un iPhone. Le problème, c'est que ça serait pas comme ça que ça se passerait. En fait, ça serait plus, on serait tous obligés d'acheter un Wiko. Désolé, Wiko, un petit tac, c'est pas méchant, c'est voilà. Hein. Mais ça serait plus ça. Il y aurait un seul modèle, le Wiko One pour tout le monde. En France, on fait de l'économie planifiée sur 3 ans. Alors, l'économie planifiée, de ce que j'en sais, c'est plus quand l'État détient 100% des entreprises et dit, bah voilà, pour tel besoin, on produit tel produit à tel prix et il n'y a plus du tout d'économie de marché. C'est l'État qui contrôle le marché, en fait. Oui, ça serait un Alcatel, voilà. Ça serait l'Alcatel Thomson One. L'Alcatel Thomson... Ah non, Olivetti, c'était italien. on serait tous encore avec des Oric, c'était bien français, et Oric One. Ça serait l'informatique, on aurait tous un Minitel. L'Internet ne serait pas arrivé en France. C'est De Gaulle qui a lancé le nucléaire. Ça discute. Mais effectivement, la politique nucléaire française, c'est De Gaulle, oui. Le Thomson 1. Mais bien évidemment, je ne suis pas un ultra-libéral qui dit qu'il faut que tout soit libéralisé. Hein. Je suis aussi pour que l'État, notamment, effectivement, peut-être pas des monopoles d'État, mais tout ce qui est chemin de fer, infrastructure, si on laisse l'économie de marché, ben, c'est évident qu'il y aura des villages qui auront plus d'électricité, plus d'Internet, plus d'eau, parce que c'est pas rentable. Donc, je suis pas pour une économie de marché partout. On est en train de partir complètement ailleurs. C'est intéressant, mais c'est pas exactement le but de l'émission. C'était le dernier article. Mais en tout cas, je pense que ça va être beaucoup dans les news de 2020-2021, le démantèlement des GAFA. Certains vont s'en délecter. Il faudra aussi parfois peut-être s'en inquiéter, parce que, bien évidemment, c'est les utilisateurs qui sont toujours un peu pris en sandwich dans ces histoires-là. En parlant de sandwich, on va parler de tartines. On va continuer un petit peu avec Facebook. On va parler effectivement du documentaire The Social Dilemma derrière nos écrans de fumée dont je vous parle déjà depuis 2 semaines. C'est un documentaire que beaucoup d'entre vous ont déjà vu. J'en entends beaucoup parler et c'est intéressant de revenir dessus. Parce que tout n'est... Il y a des choses très intéressantes dans ce documentaire. Là, Facebook a réagi à ce documentaire parce qu'ils sont un peu dans la ligne de mire. Je pense comme tout documentaire, il n'est pas exempt de défauts. On va en parler, ça va être tout de suite dans la tartine. Mais avant de passer à la tartine, on va bien évidemment parler de nos partenaires, le Shadow. Le Shadow PC, vous pouvez gagner 1 mois de Shadow PC toutes les semaines sur le mug. Pour participer, c'est très simple. Sur Twitter, vous nous laissez un petit tweet dans lequel vous nous expliquez à quoi vous utiliseriez ce Shadow PC, pour quel jeu, pour quelle application. Important, il faut que vous suiviez le compte Twitter de Nowtech, qui est Nowtech TV. Voilà, suivez notre compte Twitter pour qu'on puisse vous envoyer un DM si vous gagnez. D'ailleurs, le gagnant de vendredi, je t'envoie un DM aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu le temps, on était en tournage extérieur toute la journée, mais je te l'envoie aujourd'hui. Donc, bonne chance à tous. Le tirage au sort, c'est vendredi. Et on continue justement avec la tartine. Et donc, dans la tartine, ce matin, on va parler de Facebook qui répond au documentaire de Social Dilemma, qui en français s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », qui est dispo sur Netflix. Je ne vais pas spoiler le documentaire. Enfin, même, ouais, est-ce qu'on peut spoiler un documentaire ? Mais en gros, je le résume à ceux qui ne l'ont toujours pas vu. C'est un documentaire qui, de manière assez efficace, démantèle le fonctionnement et les abus des réseaux sociaux aujourd'hui en 2020, avec un twist qui rend le documentaire très très percutant. C'est que les personnes qui sont interviewées et qui dénoncent certains agissements des réseaux sociaux, de la vente d'espaces publicitaires ciblés, etc., sont pas des membres d'associations anti-tracking ou des choses comme ça. C'est des gens qui ont travaillé chez Facebook, chez Twitter, chez Google, et pas n'importe qui. On a, par exemple, le mec qui a inventé le bouton « like » sur Facebook. On a le mec qui a bossé sur Gmail à son origine. On a le mec qui a mis au point tout le business model de Facebook et de Pinterest. Donc, c'est des grands pontes qui maintenant ne sont plus dans ces entreprises-là, mais qui ont travaillé sur les process même qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et ça donne beaucoup de poids à ce documentaire, parce que ça serait juste des anti. On dirait, ok, c'est un documentaire, ils ont pris des gens qui sont contre certaines choses, et c'est facile. Là, ils ont pris des gens qui sont à l'origine, et c'est ça qui fait le plus froid dans le dos, des gens, en fait, qui te répètent qu'ils sont Frankenstein, qu'ils ont mis au point une créature qui n'est plus contrôlée, qu'eux-mêmes en ont peur. Et quand tu vois le mec, quand même, qui est à l'origine du business model de Facebook, qui dit « Moi, les réseaux sociaux, je les utilise plus et je veux pas que ma famille les utilise. » C'est vrai que tu te dis « Waouh, ok, c'est comme si un mec qui avait fabriqué un yaourt te dit « Oula, moi, je mange pas ces cochonneries-là. Hein. Ouh là 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 là. Ouh. » C'est l'aile ou la cuisse, là. C'est voilà. Attention, Frankenstein n'est pas la créature, hein, je vous rappelle. Frankenstein, c'est le docteur. Donc, c'est bien des Frankenstein. Si on me reprend là-dessus. Erreur commune. ça parle plus d'élite que du Mandalorian dans les cours de récré. De quoi vous parlez ? En tout cas, Netflix a réussi encore une fois à être au cœur des discussions. Disney Plus en est loin. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, Frankenstein n'est pas le nom de la créature. Ressortez ça à votre prochain dîner mondain. Mais non, Frankenstein, c'est pas la créature, c'est le docteur Frankenstein. Tout ça pour dire, effectivement, ce documentaire parle des risques de dépendance, de dépression, d'anxiété accrue, de manipulation et de déformation. Et moi, j'en ai pas mal parlé autour de moi avec des gens qui l'ont vu, d'autres qui l'ont pas vu. C'est vrai que un truc qui marque beaucoup dans ce documentaire, parce que c'est très bien fait, c'est la manière qu'ils ont de nous montrer comment marche le tracking de notre comportement et comment l'algorithme est représenté par un acteur qui est multiplié par deux. D'ailleurs, c'est un des acteurs de Mad Men, si vous ne l'avez pas reconnu. En fait, il est dupliqué et qui va essayer constamment. Et en fait, tu as un utilisateur qui est en face. Et un utilisateur, ça je trouve que visuellement ils ont très bien représenté le truc, l'utilisateur est un peu suspendu et passif, et il a tout un tas d'écrans devant lui, et en fait l'algorithme va constamment manipuler l'utilisateur pour l'orienter sur les écrans qu'il regarde. Et je trouve que cette imagerie est très bonne, parce que ça nous fait comprendre très exactement comment fonctionnent ces algorithmes, qui sont quelque chose de complexe à expliquer. Qui effectivement traque notre comportement, mais qui constamment va regarder ce qui nous intéresse et nous mettre, et essayer constamment de nous activer, nous faire rester le plus longtemps possible devant le contenu, en essayant de sans cesse nous proposer des choses qui nous intéressent, qui sont pertinentes pour nous. Et ça, le documentaire, je trouve, ils ont trouvé la très bonne image, et on comprend très bien le fond du problème, en fait, qui est beaucoup plus complexe que si tu payes rien, c'est toi le produit. En fait, c'est plus complexe que ça, et c'est plus pernicieux, et c'est plus toxique à long terme. Il parle ensuite des conséquences, effectivement, de ça, et on peut extrapoler. C'est des choses qui, dans 20 ans, peuvent mener à des guerres civiles, puisqu'on a tendance à enfermer des gens dans leur propre réalité en leur montrant toujours ce qu'ils ont envie de voir. C'est un peu comme si on vous disait que ce que vous avez envie d'entendre. Vous fermez de plus en plus dans une bulle et vous croyez que c'est la vérité absolue parce que vous n'avez plus du tout d'éléments contradictoires autour de vous. Eh bien, ça peut mener, et l'histoire l'a déjà montré, à des problèmes de guerre civile. Quand deux réalités n'arrivent même plus à comprendre que les autres croient autre chose, c'est un peu comme si, je sais pas, imaginons un truc, qu'on avait formaté les gens qui achètent de l'Android et les gens qui achètent des iPhones à croire que les autres sont complètement stupides d'acheter l'autre. Mais comment ces mecs peuvent être aussi abrutis d'acheter des iPhones? Mais c'est vraiment des pigeons. Et de l'autre côté, les autres qui disent « Pourquoi ces mecs-là achètent de l'Android? Ça marche pas ?» Si on en arrive à un point où deux communautés ne peuvent même plus s'entendre sur quoi que ce soit, ça mène à des clivages profonds, et ça peut mener à des guerres civiles. Alors, une guerre civile pour des iPhones, on n'y est pas encore. Mais bon, peut-être qu'on se balancera des iPhones et des Android à la gueule. Hein. Hé, un Note 7 grenade. Bref. Tout ça pour dire, Facebook s'est senti particulièrement visé, même si c'est pas le seul. Hein. Mais Facebook s'est senti particulièrement visé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à Facebook et à Instagram dans ce qui est dénoncé. Donc ils ont réagi. Et je trouve qu'ils ont réagi, pour le coup, là je suis très Facebook ce matin, ils n'ont pas tout à fait tort sur certains points. D'abord, ils font le reproche classique qu'on peut faire à un documentaire. Et c'est pas complètement faux dans ce documentaire. Ce documentaire est là pour vous donner aussi une opinion. Donc ils utilisent tous les ressorts classiques des documentaires, la musique dramatique, une micro-fiction pour bien vous faire comprendre, et ils vous amènent à leur point de vue. On peut pas leur reprocher, c'est le fonctionnement d'un documentaire. Les petites musiques dramatiques, je suis le premier à les utiliser quand je vous fais des vidéos réactions. C'est bien évidemment, si je vous parle de « peut-on faire confiance à Apple en vous mettant une musique de cirque ?», ça va pas marcher. Après, on prend soin quand... Je veux pas non plus qu'on tombe dans la caricature de la musique dramatique qu'on a, par exemple, sur M6. Mais voilà, je reconnais qu'on met des musiques un peu inquiétantes quand on fait des sujets réactions parce que on est là, effectivement, pour appuyer des points un peu sérieux. C'est vrai. Et donc, eux, ils l'utilisent beaucoup. C'est un documentaire pour vous faire comprendre à quel point les choses sont devenues dramatiques. Et effectivement, ils vous montrent un côté de l'histoire. Ils donnent... c'est vrai qu'ils ne donnent pas vraiment un droit de réponse dans ce documentaire, et c'est ça que leur reproche un petit peu Facebook, c'est qu'ils disent, vous avez pris certains de nos anciens employés qui travaillaient à une époque chez Facebook, Instagram, etc., mais vous n'avez pas donné parole aux gens qui travaillent aujourd'hui chez nous. Et le « aujourd'hui chez nous », c'est que justement, on cherche à travailler sur ces problèmes-là, problèmes qu'on a engendrés. On répare un peu les pots cassés en ce moment, et on le sait, Facebook a fait beaucoup de déclarations, essaye de renverser la vapeur sur certaines choses. On peut pas dire non plus que Facebook, Google et tous les autres sont là, on s'en fout, on continue. Ils essayent. On a fait des progrès sur la protection de la vie privée, même chez Google, même chez Facebook. Pour eux, le jeu est délicat, c'est qu'ils peuvent pas démanteler leur business model qui est quand même basé sur l'interprétation de données collectées afin de vendre des espaces publicitaires ciblés et efficaces. Mais ils ont quand même, il y a une vraie prise de conscience depuis 5 ans, ils travaillent sur des mécanismes. Donc voilà, ce que Facebook regrette, et je pense qu'ils ont raison de leur dire, pourquoi il n'y a pas une partie de documentaire où on donnerait la parole justement à qu'est-ce qui est fait maintenant pour lutter contre ces problèmes qui ont été engendrés. Et en ça, effectivement, le documentaire est trop à charge. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue au sortir de ce documentaire, c'est qu'il est bien, parce que je trouve qu'il explique des trucs que parfois, moi, j'ai du mal à vous expliquer. Et je trouve qu'il va éveiller beaucoup de conscience. Le problème, c'est que le constat est ultra négatif, même s'il y a quelques notes d'espoir à la fin, mais pas grand-chose. C'est quand même très négatif. Ça occulte complètement les effets bénéfiques aussi des réseaux sociaux. Ça en parle pas du tout. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des effets bénéfiques aux réseaux sociaux. Et ça, il faut faire attention à pas occulter complètement. Vous savez, c'est comme... je vais faire une analogie audacieuse, mais c'est comme un divorce. Quand, généralement, dans le divorce, on oublie les bonnes choses de ce couple, tout est jeté à la poubelle parce que c'est dominé par les mauvaises choses. Et c'est d'ailleurs, généralement, le processus de reconstruction après un divorce, c'est d'arriver, finalement, à ne pas tuer ses bons souvenirs et de ne pas tuer les bonnes choses qu'ont permis ce couple à un moment T. C'est pas parce qu'une chose... part en couille que ça remet en question tout ce qui s'est passé avant. En gros, et vraiment, je vais faire hyper schématique, c'est pas parce qu'on ne s'aime plus à un moment qu'on ne s'est pas aimé avant. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est pas parce que c'est la merdasse aujourd'hui et qu'il va falloir que certaines choses changent qu'il n'y a pas eu des vrais bénéfices des réseaux sociaux. Moi, dans ma vie personnelle, les réseaux sociaux m'ont amené tout un tas de choses, m'ont permis de discuter avec des gens que je n'aurais pas rencontrés par la proximité physique, m'ont permis, même si c'est superficiel, mais de garder le contact aussi avec certaines personnes. Je suis content, même de savoir une fois par an qu'ils vont bien, de voir de temps en temps leurs photos de gamins. Je sais que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils auraient complètement disparu de ma vie. Et là, c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Ça m'a permis aussi, mon métier d'aujourd'hui, hein, quelque part, les réseaux sociaux, de construire une communauté. Bref, je vais pas faire, mais ça, c'est complètement occulté par le documentaire. Je me retourne un bref instant vers vous. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que tout est foutu après ce documentaire? Est-ce que vous pensez que ce documentaire aurait dû ou aurait pu, ou est-ce que ça vaudrait le coup de faire une partie 2 avec peut-être une partie plus nuancée? Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Les enfants des dirigeants des entreprises de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles où les écrans sont interdits. Alors, là aussi, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus.
Désolé, j'entends mal ce que vous me dites.
Mais c'est parce qu'en fait, je te parlais pas vraiment, Siri, mais c'est pas grave. Attention, parce que là aussi, bien évidemment, et même dans le documentaire, genre, tous les dirigeants de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'utiliser les produits. Non, 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 d'abord, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ils font, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ils mettent des limites à l'utilisation des écrans. Donc oui, ils reconnaissent les dangers aussi des produits qu'ils fabriquent. Je veux dire, ce que vous êtes en train de me dire, il y avait une analogie par un journaliste américain, c'est de trop dire que les dirigeants de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'utiliser les mêmes produits. C'est comme si vous me disiez qu'un fabricant d'armes interdit à ses enfants d'utiliser des armes avant 18 ans. C'est pas parce que tu fabriques effectivement un truc qui potentiellement peut être dangereux que tu dois le donner à ton gamin de 2 ans en disant « Regardez, c'est inoffensif. » Enfin, voilà. Je trouve qu'il était trop dramatique dans le sens où il s'est concentré que sur le négatif. D'accord. Mauvais documentaire n'a aucun poids sur mon jugement des réseaux sociaux. D'accord. Le problème, c'est de donner la parole des gens de Facebook qui ne sont pas libres de parole. Alors attention, les gens auxquels ils ont donné parole ne travaillent plus chez Facebook. Donc ils ont liberté de parole. Ils doivent faire attention, parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent de diffamation sur leur ancien employeur, mais ils ont quand même plus de liberté de parole que quelqu'un qui travaillerait actuellement chez Facebook. Une partie 2 serait intéressante, ou plutôt un côté droit de réponse. Moi, c'est ce que je pense, ouais. Il y a un biais. De toute façon, tout documentaire, toute prise de parole, il y a un biais. C'est bien évident. Vous fantasmons pas trop sur l'objectivité totale et divine, où tout serait équilibré, nuancé, machin. partir du moment où tu ouvres ta gueule, il y a un biais. Tu essayes de convaincre. Donc on ne peut pas reprocher à un documentaire d'avoir un biais. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est les gens qui n'écouteraient que ce documentaire et qui ne chercheraient pas à se forger une opinion propre. Je trouve qu'on surestime quand même la précision, la capacité d'IA qui suggère quand même, je trouve, mais qui est super d'alerter en même temps de Black Mirror. Écoute, moi, tu vois, en ce moment, je m'interroge beaucoup. J'étais persuadé de m'être libéré de Facebook. Mais en fait, je m'aperçois en ce moment, là où Facebook, ils n'arrivent plus du tout à me choper, à me faire revenir. Instagram m'a rattrapé. Et tu vois, moi, j'ai bossé dans la pub, donc j'aurais jamais la prétention de dire, moi, la pub, je suis pas sensible à la pub. Et pourtant, j'ai travaillé de l'autre côté, donc je connais bien les mécanismes publicitaires. Et pourtant, j'ai, entre guillemets, l'humilité de me dire, oui, je peux être sensible à la pub, attention. On a toujours l'illusion que la pub nous fait rien du tout, mais je vous garantis qu'il y a des mécanismes d'action que vous soupçonnez pas au niveau inconscient, et la pub fonctionne. Sinon les publicitaires auraient arrêté de faire de la pub. Il y a un moment, quand vous vous dites, mais pourquoi les mecs, ils continuent à faire de la pub? Moi, j'ai jamais acheté en regardant une pub, mais jamais. Et là, posez-vous une autre question. Pourquoi on continue à faire de la pub si tout, parce que vous n'êtes pas supérieur à un autre? Si tout le monde est insensible à la pub, pourquoi on continue à faire de la pub? Il doit bien y avoir une efficacité quelque part. Bref, je ferme la parenthèse. Donc c'est bien aussi de vous interroger. Et moi, par exemple, en prenant du recul, bon, c'est Marion qui m'a aidé un peu. L'autre jour, j'étais en train sur mon fil Instagram et je lui dis « Oh, t'as vu ce pantalon? Il est vraiment génial !» Elle me dit « Mais il a quoi de génial? C'est un pantalon !» J'ai dit « Ouais, non, mais ils ont complètement repensé le pantalon. C'est un Kickstarter et en fait, ils ont repris à la base qu'est-ce que doit être un pantalon. Et voilà, ils ont fait ça. » Et le silence de Marion était éloquent et je me suis rendu compte « Ok, ils ont compris que j'étais fan de Peak Design. » Ça fait 4 fois que j'achète des produits kickstartés sur des pubs Instagram. Je n'ai plus que des pubs Instagram pour des produits révolutionnaires. Nous avons réinventé le stylo. Nous avons réinventé le PQ. Ils ont compris que moi, j'achète des trucs où tout est réinventé. Jusqu'à ce que ça soit débile, hein, d'ailleurs. Mais vous voyez très bien, hein, le type de produit. Ils ont compris que moi, je suis sensible à ces pubs-là. Tu me mets, nous avons repensé entièrement ce qu'est un pantalon. Je clique. Je veux voir. Nous allons vous changer complètement votre manière de boire du café. Bah, je vais voir. Donc, ils ont réussi, moi qui cliquais très peu sur des pubs et achetais peu de produits finalement par rapport aux bannières ou même aux pubs YouTube, j'avais l'impression, et encore là je sais bien que je suis finalement inconsciemment conditionné par certaines choses, mais ils sont forts, ils ont vu que voilà, il y avait souvent du Peak Design dans ma vie, que je parlais souvent de Kickstarter, que j'avais un compte actif Kickstarter. Et ils ont vu que j'ai acheté des produits et ils ont bien vu sur ce sur quoi je cliquais. Donc ils m'ont trouvé. Et c'est le groupe Facebook. Ils ont réinventé le fil à couper le beurre. Ah non, mais je suis comme ça, hein. Je me suis rendu compte de ce problème. J'ai pris pour principe de ne pas acheter un produit quand la pub m'a donné envie. C'est difficile au départ et on s'y fait. Ouais. Ce qu'il faut pas sous-estimer, et c'est là où il faut être modeste avec soi-même. Tu as, je dirais, la sensibilité active par rapport à une pub. On te présente un produit, tu as envie de l'acheter. Ça, c'est relativement facile d'en prendre, de prendre acte et de te dire « Non, je veux pas être sensible à ça, je résiste à la tentation. » Là où la pub est le plus efficace, c'est au niveau de l'inconscient. C'est pas parce qu'on te présente des bâtonnets de poisson que tu vas te ruer dans ton supermarché acheter des bâtonnets de poisson. Là où la publicité est réellement efficace, c'est qu'on va te présenter un jour des bâtonnets de poisson qui sont croustillants, qui sont appétissants. Tu te dis, ah, quand j'étais gamin, j'aimais bien le poisson pané. Putain, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de poisson pané. Mais tu vas pas te ruer dans un supermarché les acheter. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a plusieurs formes de publicité. Tu vois à la télé des bâtonnets de poisson. Ok ? Tu penses pas plus, tu vis ta vie, tu manges pas de bâtonnets de poisson dans les mois qui suivent. Et puis un jour, tu vas à ton supermarché, tu vois, putain, il y a une promo sur les bâtonnets de poisson. Je peux avoir deux paquets pour le prix d'un. Ce serait peut-être l'occasion quand même de me remettre aux bâtonnets de poisson. Ou alors tu passes devant le rayon et on te montre, il y a un nouveau packaging. Et les bâtonnets de poisson sont hyper croustillants. Et en plus, ils te rappellent vraiment les bâtonnets de poisson que t'aimais quand t'étais petit, tu vois. Ils y ont ajouté un goût ketchup. Voilà, tout ça pour dire la mécanique publicitaire joue beaucoup sur des mécanismes inconscients. Il ne faut pas croire non plus que la pub est un mécanisme de lobotomisation, de lobotomisation consciente, qui te fait dire achète des bâtonnets de poisson et hop, tu vas au supermarché et tu achètes des bâtonnets de poisson. C'est plus subtil et quelque part plus dangereux que ça. Je m'en rends compte au boulot des gens qui veulent un tel produit trois fois plus cher alors qu'ils ont l'équivalent moins cher juste parce qu'il y a la pub à la télé. Ouais, il y a de ça. Tant qu'il y a de la crème anglaise, moi j'en mange des bâtonnets de poisson. D'accord. En fait, la publicité va venir vous choper à plusieurs moments. C'est ce que je voulais expliquer dans les mécanismes publicitaires. Que ça soit le marketing direct, que ça soit la promotion, que ça soit la pub d'image à la télé, que ça soit dans les journaux, les affiches, c'est des mécanismes publicitaires différents qui, en fait, vont vous conditionner inconsciemment dans ce qu'on appelle le tunnel d'achat ou l'entonnoir d'achat. Mais on va pas faire un cours de marketing. Au moment de choisir le bâtonnet, tu te souviens de la marque pour faire ton choix. Il y a de ça aussi, ouais. Quand je vois la grand-mère de ma copine qui dit que la laitière, c'est vraiment de la qualité, alors que c'est tout aussi industriel. Oui, là, je pourrais parler des heures. Effectivement... La laitière, et on vous met un tableau de... C'est Rembrandt, je crois, oui. C'est un tableau de Rembrandt. C'est pas une laitière qui est en train de vous faire le yaourt, hein, les gars. Hein. Vous le savez. En plus, vous le savez. On n'est pas bêtes. Et en plus, ils sont un peu plus chers que les autres. Donc, tu te dis, oh, quand même, ils n'auraient pas fait un pot de yaourt un peu plus cher que les autres s'il n'était pas un peu mieux fait et s'il n'y avait pas un petit peu une vraie laitière qui était intervenue dans le processus de fabrication, quand même, un petit peu, quoi. Voilà. J'aimerais comprendre comment Peak Design a autant séduit Jérôme. Bah justement, Peak Design, ils m'ont séduit parce que, en tout cas, c'est leur... Plusieurs choses, mais leur leitmotiv, c'est on a réinventé ce que c'est qu'un sac photo. Et quelque part, pour moi, c'est pas du pipeau. Ils ont repensé ce qu'était un sac photo. Le problème pour moi des sacs photos, c'est qu'ils ressemblaient trop à des sacs photos et les sacs qui n'étaient pas photos n'étaient pas pratiques pour y mettre du matériel photo. Donc, ils ont inventé un type de sac qui peut faire sac photo et sac de pas photo aussi facilement. Ils y ont mis beaucoup d'astuces. Ils ont réinventé, par exemple, les séparateurs. Avant, dans les sacs photos, t'avais que des gros séparateurs en mousse qui prenaient beaucoup de place. Tu vois, c'est par des petites astuces. J'aime l'innovation. C'est pour ça que j'aime la tech. J'aime les mecs qui se disent « On fait ça comme ça depuis 20 ans, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement ?» C'est ça qui m'attire dans des processus de réflexion, de fabrication et d'ingénierie sur un produit. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont chopé. J'aime le système de Kickstarter, c'est-à-dire miser sur un produit, assister à sa fabrication, ça me fascine. J'aime le fait que Peak Design soit complètement transparent sur le fait que ouais, bah, nos produits sont faits au Vietnam. D'ailleurs, venez, on va aller dans l'usine, on va parler avec les gens. Enfin, ils ont une totale transparence. C'est peut-être du bullshit marketing, mais ça a marché avec moi. Voilà. La seule laitière, c'est la vache. Ah, c'est Vermeer, pardon. Oui. Ok, désolé. Ouais, Vermeer, Rembrandt, c'est... Vermeer, il était bien Pays-Bas aussi. Il travaillait pas un peu sur les clairs-obscurs aussi, lui? Ouais, je suis un early adopter. De toute façon, j'achète beaucoup de produits sur Kickstarter. Enfin, beaucoup. Allez, n'exagère pas, Jérôme. J'ai dû acheter 6-7 produits sur Kickstarter. J'aime beaucoup les entreprises qu'on appelle disruptives. On déteste le mot, mais voilà, les entreprises qui font pas comme les autres. J'aime ça. Bref, je sais pas pourquoi on... Vous voyez, on part de Facebook, on arrive au sac à dos. Et il est 9h09. Il est peut-être temps qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. Mais c'est intéressant. Je pense qu'on va reparler de ce documentaire parce que je pense qu'il impressionne les gens... Ça les déprime complètement, ce documentaire. Je pense que ça peut valoir le coup qu'on parle, qu'on reparle aussi peut-être des bonnes choses des réseaux sociaux. Encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais, je ne me suis pas trompé dans le proverbe. N'empêche, les chaussures, elles sont bien. Ah ben c'est clair, moi j'ai les Tropic Feel. Je les ai achetés sur Kickstarter. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission, le camp de fac. Vous avez des questions? J'aurai peut-être des réponses. Pas de questions Platinium ce matin. Donc allez-y. À noter, ce soir, je vais peut-être faire... En fait, ce soir, il faut qu'on teste le matériel de Marion, puisqu'elle reprend normalement le mug demain. Elle va faire le mug demain. Et donc, ce soir, tout en testant le matos, je ferai peut-être un fac tech photo. Enfin, si vous avez des questions à me poser, je vais refaire un Ask Me Anything ce soir, ici, hein, sur Twitch. Donc, si jamais votre question passe pas ce matin, vous pourrez éventuellement me la poser ce soir. Je cherche une alimentation pour utiliser le Nikon Z en mode vidéo, donc sans les batteries. Tu as quelque chose à me conseiller? Oui, il existe... il existe quelque chose. C'est ce qu'on appelle une fausse batterie. Est-ce que je peux t'en montrer une ici? J'en ai une du Nikon, mais elle est un peu trop loin. Ah ben oui, non, le problème c'est qu'elle est en train d'alimenter mon Lumix. En fait, ça fait comme une batterie, mais il y a un fil qui part et tu peux le brancher sur secteur et tu mets ça à la place de la batterie. Alors, renseigne-toi un peu, il faut faire attention à pas acheter n'importe quoi non plus. J'ai pas de marque à te conseiller. Regarde un peu les avis pour savoir si personne n'a grillé son appareil avec ce type de truc. Mais ça marche, c'est des fausses batteries. À quelle heure, je sais pas, ce soir, Vaéa, je sais pas à quelle heure. Ce sera peut-être vers les 9h. Non, j'ai pas testé le OnePlus Buds, non. Est-ce qu'on peut avoir un flash branche de lunettes? Tu veux dire ça? Le pouvoir spécial de mes lunettes? Là, on voit pas. Merde. J'ai des antennes sur mes lunettes. Putain, je ressemble à une grosse guêpe. C'est ça que tu voulais, Olek? Tu voulais que je me ridiculise, encore une fois? Apple a de nouveau enlevé les produits audio d'autres marques. Tu crois une sortie de casque Apple? Bah, Jess, on en a parlé en début d'émission, ça. Je ne sais pas si tu étais là. Merci pour ce moment. Ça fascine tout le monde. Mais à quoi ça sert? Pourquoi tes branches, elles font ça? Bah, c'est un mécanisme anti-casse des branches de lunettes. Si jamais, effectivement, tu t'assieds alors qu'elles sont comme ça, au lieu de... Voilà, ça les empêche de se plier dans l'autre sens. C'est ce que l'opticien m'a dit. Je ne les ai pas achetées pour ça, hein. Ça marche à chaque fois, je suis mort de rire en te voyant avec les lunettes. bonjour Jérôme, j'ai un iPad Pro 11 en location qui se termine. J'hésite maintenant entre confiance in 11 pouces ou 12 pouces. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le 12 pouces? Alors, j'ai fait une vidéo sur le choix de la taille. Pour moi, la meilleure analogie, c'est est-ce qu'au bureau, tu préfères travailler avec un cahier ou est-ce que tu préfères travailler avec un carnet? C'est vraiment une question de transport. Moi, maintenant, j'ai un sac assez grand pour transporter le 13 pouces. Donc, je préfère avoir un 13 pouces parce que j'aime beaucoup prendre mes notes dans un cahier, non pas dans un carnet. Pour mon type d'écriture, un carnet est un peu trop petit. J'aime bien faire des grands schémas et tout ça. Donc, le cahier me convient tout à fait. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de choisir. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend aussi de ton sac. Ça, il faut un sac qui permet d'emporter des portables de 13 pouces. Donc avant, j'avais des sacs plus petits au quotidien. Maintenant que j'ai adopté le Everyday Backpack de Peak Design, celui-ci comme sac de tous les jours, j'ai la place pour mettre mon iPad 13 pouces dedans. Donc c'est un peu comme ça que vous devez le choisir. Est-ce que tu trouves que l'Osmo 4 est intéressant? Pas tellement par rapport au 3. Le produit m'a pas le truc magnétique. Ça t'oblige, enfin, ouais. Après, il est très bon, hein, le 3. Mais la vraie question que je pose, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'un Osmo? J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est la question que vous devez vous poser. Ah, mais on lui a tellement vendu des lunettes révolutionnaires, il a sauté. Non, alors pour être tout à fait honnête, c'est vrai que les lunettes, en plus, c'est pas moi qui ai choisi, c'est un peu Marion, parce que moi, j'y vois rien. Je suis quand même assez myope. Donc, j'ai beau me mettre des lunettes et regarder dans le miroir, je vois pas trop ce que ça donne. Alors, j'ai vu un peu. Et c'est juste à la fin, quand je les ai pris et que j'ai fait ça, j'ai fait « Ah, mais elles sont cassées !» Et l'opticien m'a fait « Non, non, elles ont un mécanisme anti-casse, et c'est ça. Ouais. » Mais c'est pas pour ça que je les ai achetées, Oleg. Les produits Beats sont encore sur le store. Bah oui, mais Beats, ça appartient à Apple. Qu'en parles-tu des applications préférées sur iPad? Le problème, c'est qu'elles changent tout le temps. Chaque fois, je me dis, putain, il faudrait faire une vidéo What's on my iPad, What's on my iPhone. Je suis là, ah ouais, mais j'ai changé la semaine dernière. Non, c'est pas vrai. Il y a des trucs que j'utilise tous les jours. Un jour. Ça fait 4 ans que je dois faire ces vidéos et je les ai jamais faites. Un jour. C'est quoi la question intéressante de... Ouh là là. Alors, putain, il faut que je remonte. Ah, ouh là là. Quel thème ou produit dont tu souhaites faire une vidéo t'es malheureusement pour le moment inaccessible? C'est effectivement une bonne question. Alors, c'est sûr que j'aimerais bien faire un truc sur les robots, sur le robot qui marche là, espèce de chien robot industriel, de chez Boston Dynamics. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Après, on va dire plus réaliste. Par exemple, si en fait, j'ai plus des, c'est un mélange de problèmes de temps et d'accessibilité, mais par exemple. Je peux pas mettre la main facilement sur le dernier boîtier Sony ou le dernier boîtier Canon ou le dernier boîtier Fuji. Donc, je peux pas vraiment faire des vidéos dessus au moment où je voudrais les faire. Peut-être que plus tard, je pourrais. Voilà, donc c'est des regrets. Pareil, l'année dernière, j'étais un peu dégoûté de pas pouvoir faire le smartphone flip, parce que je l'ai eu en main, puis on me l'a repris, on me l'a pas renvoyé. Moi, ça me pète les couilles de réclamer les produits aux marques, enfin d'envoyer des mails. Enfin, j'aime pas cette position où on doit leur réclamer les produits. Putain, merde, on leur fait une espèce de pub gratos en parlant de leurs produits. On n'a pas à courir après le produit non plus. Alors, je suis peut-être quelqu'un de trop fier. Hein. C'est un problème que j'ai. Mais... Et je vois là, le Fold 2, je suis pas sûr que je vais en faire un test complet parce que on m'a pas proposé de le reprendre, quoi. Alors que la vidéo arrive doucement aux 50 000 vues, ce qui est un score honorable, on va dire, quand même, pour une... Voilà. Donc voilà, pour l'accès aux produits, parfois c'est un peu ça. Il y a des moments où j'ai fait des unboxings, j'aimerais bien faire le test complet, mais on me renvoie pas le produit. Je vais pas lui courir après, et ça me fait chier pour vous, ça me fait chier pour moi. Voilà. Oui, bah, il était génial, le court-métrage d'Olivier sur le Sony A7S3. De toute façon, aujourd'hui, en France, très honnêtement, il n'y a pas de chaîne caméra comme il pourrait y avoir, comme il y a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous avez Olivier, Guillaume Ruchon et d'autres qui sont quand même plutôt équipés Sony, soit après vous avez moi, Nikon, Lumix. Y a ceux qui ont du Canon. C'est pas évident aujourd'hui parce qu'il faut comprendre que le marché de la photo en France est très mal organisé au niveau des influenceurs par rapport au marché américain. C'est hyper dur pour nous d'avoir des boîtiers en test. Et honnêtement, ils nous prêtent les boîtiers 15 jours. Je suis désolé, mais moi, je fais pas un test d'un appareil en 15 jours. C'est impossible. Je peux vous faire une prise en main, première opinion, machin, mais je ne teste pas un boîtier sérieusement 15 jours. C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Ou alors, je fais que ça pendant 15 jours. Mais c'est ça le problème, c'est que pendant ces 15 jours, regardez, en ce moment, il y a des boîtiers qui sortent. Si je me mobilise pendant 15 jours, je ne fais pas de vidéo sur l'iPhone alors ? Je ne fais pas de vidéo sur le truc ? Et puis ça veut dire 15 jours sans vidéo du tout sur la chaîne ? C'est compliqué. Alors, Emmanuel, ouais, il teste pas mal de trucs tout horizon. En photo, il y a la chaîne d'Éric Guibaud, français installé au Caran. Il teste tous les modèles d'appareils. Il faut combien de temps pour le faire bien? Alors, une vidéo habituelle, un smartphone par exemple, c'est à peu près 60 heures de boulot. 60 heures cumulées, donc il faut les caser dans les semaines, hein, les 60 heures, sachant qu'on ne peut pas faire ça du lever au coucher. Déjà, je suis en train de faire le mug, je ne suis pas en train de vous tester un smartphone. Donc, un test de smartphone bien complet, bien fait avec les photos, c'est 60 heures de boulot. Pour moi, un vrai test d'une caméra, c'est très facilement 100 à 150 heures de boulot pour vraiment bien faire le test. Après, c'est ma manière de travailler. Certains vont dire, Jérôme, il prend beaucoup trop de temps. Moi, je suis capable de tester un smartphone en 2 heures. Et il y en a qui le montrent. Hein. Il y en a qui font des tests de smartphone en 2 heures. Et j'ai pas de jugement de valeur. Je dis pas qu'il est mauvais leur test parce qu'il est en 2 heures. Je dis que c'est un test qui a été fait en 2 heures. Voilà. Donc, tu peux tester un certain nombre de choses en 2 heures, mais tu peux pas tout tester. Est-ce que je compte me mettre à l'impression 3D ? Pour l'instant, non. Mais surtout, il faut aller au Vietnam pour faire des photos, ça prend un temps fou. Je l'ai fait une fois, ça, Olek. Putain, c'est Fuji qui en a bénéficié. Ah non, 2 fois, ouais. Les 2 fois où je suis allé au Vietnam... J'en ai rapporté un peu. Alors, la dernière fois au Vietnam, justement, je n'ai pas voulu travailler pendant mes vacances. J'ai juste fait des photos avec le Fuji. Et après, j'ai tourné la vidéo de ce que j'en pensais. Mais parce que maintenant, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à amener à vous faire des vidéos quand j'étais en vacances. Ça a gâché mes vacances. Enfin, pas gâché, mais c'est vraiment amener du boulot en vacances, quoi. Travaillez-vous sur une fiction type court-métrage ? Pas du tout. À la limite, ce qui m'intéresserait, ça serait de travailler sur du documentaire. Ça serait mon rêve. Mais fiction, ça m'attire pas beaucoup. Un test de moyen format un jour ? Ouais, non. Pour l'instant, non. C'est vraiment hyper niche, le moyen format. Ou alors, peut-être en parlant des tailles de capteurs, ça pourrait être intéressant. Allez, je prends une dernière question et je vais vous laisser. Si vous avez encore des questions, je serai peut-être là ce soir. Je dis bien peut-être, allez, un petit 70% de chance, allez, un petit 80% de chance que je sois là ce soir pour faire un FAQ ou un AMA Tech. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être que vous n'en avez pas. Documentaire sur quel sujet? La tech, mais au sens large. C'est vrai que mon rêve, un documentaire comme Derrière vos écrans de fumée, j'aurais adoré bosser sur ce type de documentaire. Ça, j'adore. C'est peut-être ce que je préfère regarder. Bon, après, j'aime bien les séries et les films, mais un bon documentaire, waouh, j'adore, quoi. Ouais, moi, des grands... Mais quelque part, mais à notre échelle, hein, mais ce qu'on vous fait dans nos formats réaction, peut-on faire confiance à Apple et ce genre de trucs, c'est, on va dire, notre tentative avec nos moyens de faire une approche de dossier documentaire. Ça, j'avoue que j'aimerais en faire plus encore sur la chaîne, sortir un peu du test de produit et partir là-dessus. Le problème, c'est que pour l'instant, vous êtes... Enfin, les gens qui regardent les tests produits, ça reste très important pour vous. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait. C'est pas, mais je peux vous dire, il y aura un peu moins de tests sur la chaîne. Je testerai définitivement pas tous les smartphones, pas tous les appareils photo. Je vais faire moins de tests. Je vais continuer à en faire, mais voilà, des sujets plus de fond m'intéressent. Projet tech qui te hype le plus en ce moment. Il y a un truc qui me titille, c'est moi, et comme beaucoup d'entre vous, j'utilise pas du tout les commandes vocales, les assistants, à part pour les engueuler. Je me suis pas du tout fait à la commande vocale. Mais je commence à me dire que c'est quand même l'avenir. Donc, c'est pas parce que moi, je m'y mets pas. Que ça prendra pas. Donc, ouais, ça, c'est un sujet auquel je réfléchis. Il y a beaucoup de sujets auxquels je réfléchis. D'ailleurs, il y a au moins 5-6 vidéos, j'ai commencé à écrire des sujets, je commence à rassembler mes idées pour des projets réactions, quoi. Allez, je vous fais des bisous. Oh, c'est gentil de dire que nos vidéos sont 1000 fois mieux que les documentaires Netflix, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des documentaires Netflix qui sont très... Netflix ou autre, hein, ou Arte. Vraiment travailler un format documentaire, pouvoir envoyer des vrais journalistes, faire des images sur le terrain. Vous voyez, quand je vous dis, peut-on faire confiance à Apple, je veux un journaliste infiltré chez Apple, qui fait des images avec une caméra cachée et tout, qui se fait foutre à la porte par Tim Cook. Voilà, je veux que ça saigne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, soyez bons, soyez forts. Peut-être rendez-vous ce soir ici sur Twitch et rendez-vous demain matin, c'est Marion donc qui fait son grand retour sur le MUC sous vos applaudissements et vos encouragements. Et moi je vous dis à vendredi puisque jeudi ça sera Guillaume qui fait aussi sa rentrée sur le MUC. Allez, ciao tout le monde, passez une bonne journée.